Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette deuxième journée des fractions et merci à vous Marie Ndiaye d'avoir répondu présente pour discuter un petit peu moins d'une heure ensemble sur votre parcours. Et je vais commencer par une phrase qui n'est pas de moi, je vais commencer par une phrase de Pierre Le Pape pour parler de vous. Pierre Le Pape, journaliste au Monde, qui avait dit en 1996, lors de la sortie de La Sorcière, votre sixième roman, Marie Ndiaye a un propos et une voix qui ne ressemblent à rien de connu. Dans ce même article, il avait précisé que vous vous étiez installé dès votre premier livre, rédigé sur les bancs du lycée, dans un univers bien à vous et qui ne doit rien à l'imitation d'un modèle ancien, ni à l'application d'une doctrine, ni à l'enseignement d'une école, ni à la soumission à une mode. Il est vrai qu'en 37 ans de publication, de la sortie du premier roman aux éditions de Minuit, quant au Riche Avenir en 1985, au dernier, La Vengeance m'appartient chez Gallimard, vous vous êtes imposé par votre originalité, si je reprends le mot de Pierre Le Pape. Vous avez publié votre premier livre à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire que vous écriviez bien avant, on en reparlera si vous le voulez. En presque 40 ans, il y a eu certes une progression dans l'écriture, ce dont on parlera aussi, mais vous avez gardé cette fameuse originalité, cette place à part, je trouve, dans la littérature, tant vous tracez votre chemin sans jamais vous soumettre aux modes et aux tendances. Alors on pourrait commencer par parler de la longueur des phrases, on pourrait parler de leur agencement, de la beauté de votre langue pour dire la réalité parfois crue et laide, de votre capacité, il me semble, de passer du théâtre au roman sans distinction. On pourrait commencer par évoquer l'enfance dans vos textes, mais aussi les odeurs dans vos textes, les descriptions d'intérieur et des personnages obsédés, je crois là aussi, par des objets et par les maisons. Je pourrais aussi commencer par la question de la maternité, par celle du père ou par celle du renoncement de certains de vos héros, héroïnes, devrais-je dire, ou encore anti-héros. On pourrait aussi débuter par la question de votre tentation d'aller aux racines, aux sources de vos personnages. Mais j'aimerais commencer par les premières phrases, puisque c'est ça aussi les sources d'un roman, quoique, vous allez me dire, ces phrases qui nous font entrer dans vos textes presque par effraction. C'est le nom de ce festival, mais je trouve que parfois on rentre dans vos romans comme si on n'y était pas attendu, ou en tout cas comme si on n'était pas concerné par le passé, qu'il fallait bien qu'on fasse avec. Alors j'ai noté quelques premières phrases de romans, certaines sont longues, je ne sais pas si j'aimerais bien vous demander de les lire, si vous êtes d'accord. Merci. J'ai trois premières phrases de trois romans. Première phrase de Rosie Carpe en 2001, première phrase de Trois femmes puissantes en 2009 et première phrase d'une chef au roman d'une cuisinière. C'est page de gauche.
Mais elle n'avait cessé de croire que son frère Lazare serait là pour les voir arriver, elle et Titi, que Lazare, frère aîné, aurait le bon goût de lui épargner l'attente inquiète et légèrement humiliante parmi la foule de vacanciers que des hôtes rétribués, eux, venaient chercher, surgissant de toutes parts avec leur grand sourire blanc et, aux pieds, leurs claquettes de plastique qui les annonçaient d'un bruit mouillé, et leurs barbudas sans souci et leurs joyeuses chemisettes ornées d'injonctions humoristiques. Ensuite, et celui qui l'accueillit ou qui parut comme fortuitement sur le seuil de sa grande maison de béton dans une immensité de lumière soudain si forte que son corps vêtu de clair paraissait la produire et la répandre lui-même, cet homme qui se tenait là petit, alourdi, diffusant un éclat blanc comme une ampoule au néon, cet homme surgit au seuil de sa maison démesurée, n'avait plus rien, se dit aussi Nora, de sa superbe, de sa stature, de sa jeunesse auparavant, si mystérieusement constante qu'elle semblait impérissable. Et la troisième, première phrase, « Oh oui, bien sûr !» C'est une question que lui avait souvent posée.
Après, c'est mes questions. Marie Ndiaye, alors, pardon parce que je vous ai pris, je ne vous avais pas prévenu de cette lecture. Mais si on commence par ces phrases qui sont surprenantes, et c'est vrai qu'on entre dans vos romans très souvent comme une souris ou comme par effraction, et avec cette conscience du passé, d'une histoire qui a déjà commencé bien avant nous. Est-ce que ça, c'est conscient chez vous? D'où vient cette première phrase? Aragon avait écrit quelque chose sur les fameuses premières phrases qui pouvaient surgir comme ça. Est-ce que chez vous, elles surgissent et elles font déjà l'histoire? Parce qu'on le voit, elles disent quasiment tout de ce qui va être développé et des fils qu'on va tirer dans vos livres.
Oui, vous avez raison. La première phrase fait l'histoire entière. Et quand je commence un roman, je prends mes personnages à un moment de leur vie, un peu aléatoirement, c'est-à-dire quand je commence à les évoquer, ils ont eu une vie avant que j'évoque un peu, mais je les prends à un moment de leur vie qui aurait pu être aussi un autre moment, quoi. C'est comme quand on vit, on s'arrête à un moment de notre vie, puis on essaie de décrire ce qui se passe ensuite. Mais j'ai l'idée que quand je mets en scène mes personnages, ce qu'on ne sait pas d'eux, parce que je ne le décris pas, ce qui précède le moment où je les fais surgir dans l'histoire, eh bien, on aura la conscience, mais pas plus de précision. En fait, les personnages, je les prends dans leur vie à un moment que moi je choisis, mais que ne choisissent pas, mais ça aurait pu être aussi quelques jours après ou quelques jours plus tôt, enfin, comme dans un film, quand on s'arrête, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est passé avant et on va décrire tout ce qui se passe après, mais c'est assez aléatoire en fait.
La fin, ce serait pareil avec vos livres, parce que très souvent on se sépare des personnages alors que la vie n'est pas finie. C'est ce qu'on a l'impression avec vos livres, c'est qu'on prend un moment de leur vie. Alors très souvent un moment de contradiction, un moment de blessure, un moment où se passe quelque chose qui va contrarier, qui va déranger et qui va peut-être, très, là aussi très souvent, c'est dire aussi les choses qui vous travaillez, je crois, depuis longtemps, revenir à l'enfance. Parce qu'il est souvent aussi, et l'extrait dont je vais parler maintenant, qui est du dernier livre, on n'a pas lu la première phrase, mais le début de votre dernier roman, c'est l'irruption dans la vie d'une avocate, dans son cabinet, d'un homme qui entre pour lui demander, alors il n'est pas dit dans la première phrase ça, mais pour lui demander de défendre sa femme. Et tout de suite, on sait que cet homme lui rappelle quelque chose et quelque chose qui lui fait mal à ce moment-là. Donc on sent bien que dans la vie de cette avocate se passe à ce moment-là, du début du roman, une fracture, une contrariété, quelque chose qui va bousculer sa vie. C'est aussi ça que vous aimez, c'est nous faire entrer dans des personnages qui, à un moment de leur vie, vont voir peut-être cette vie basculer vers autre chose. C'est ce basculement qui vous intéresse?
Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment où, comme dans la vie de cette Maître Suzanne vit par ailleurs tranquille, enfin sans vague. Elle mène une vie qu'elle a choisie et qui lui va tout à fait. Donc cette vie de Maître Suzanne qui ne lui pose aucun problème se passe avant la première phrase du roman, et la première phrase du roman aussitôt la plonge dans quelque chose de plus trouble, et cette première phrase doit nous faire penser que finalement la vie parfaitement tranquille qu'elle menait n'était peut-être pas aussi rêvée, aussi paisible qu'elle le pensait, mais voilà, la première phrase avec cet homme qui fait irruption dans son bureau remet en question tout ce qui précède la première phrase, finalement tout ce qui précède la vie antérieure de Maître Suzanne qui semblait être la plus convenable qui soit, et la première phrase avec l'éruption de cet homme met à mal le début, en fait tout ce que le roman ne dit pas, mais tout ce qui précède la première phrase en quelque sorte.
Mais à mal tous ces principes, si je peux me permettre aussi. Je vais utiliser ce dernier roman, La vengeance m'appartient, pour déployer, je pense, deux, trois thèmes que vous déployez depuis le début. Alors ce roman, c'est effectivement cette irruption un jour dans le cabinet de Maître Suzanne, dont on ne saura pas le prénom, de Monsieur Principeau, qui vient lui demander de défendre sa femme, qui a tué leurs trois enfants, Jason, 6 ans, John, 4 ans, et Julia, 6 mois. Marlene Principeau, elle avoue, elle est indéfendable, cette femme, et si on pense, nous, que ce roman va concerner ce qu'on pourrait appeler ce fait divers, on va se rendre compte que ça va être l'histoire de Maître Suzanne qui va aussi nous intéresser, et que la question des deux femmes va peut-être se rejoindre, la question d'être mère ou d'être enfant va se poser dans ce livre-là, la question de la mémoire aussi, la question des corps, la question des femmes, la place des femmes, qui est une grande question, je trouve, de ce livre-là, la question des pères absents ou mauvais père, si je peux le dire comme ça, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce livre déploie toutes ces questions-là qu'on a trouvées dans d'autres livres que vous écrivez depuis le début, Marie-Anne Diaye. Je vais vous poser la question un peu bateau, on va dire. Ce fait divers et cet infanticide est troublant. Il est le cœur de ce livre et le cœur de l'enquête que devra, ou en tout cas le travail que devra mener Suzanne, en même temps que cette enquête de savoir en quoi ce monsieur Principeau lui rappelle son enfance et sa propre condition, et remettre en cause sa propre condition. Est-ce que ce livre est parti chez vous justement de cet infanticide ou d'autres choses justement?
Le livre est vraiment partie de l'histoire de l'infanticide. Il se trouve que au moment où je réfléchissais à un nouveau roman, je travaillais avec Alice Diop sur le scénario d'un film qui est sorti il y a trois mois, je crois, et qui s'intitule Saint-Omer. Et Saint-Omer raconte un infanticide. Le film se base sur un fait divers qui s'est produit il y a 10 ou 12 ans, et dans lequel une mère tue sa très jeune enfant âgé de 18 mois. Et c'est en travaillant à ce scénario que l'idée de livre m'est venue, et l'histoire de l'infanticide dans le livre a vraiment été inspirée par ce travail sur le scénario avec Calice Diop autour de Saint-Omer. L'infanticide donc tient bien sûr une grande place dans le livre, mais ce qui m'intéressait peut-être davantage, c'était Maître Suzanne, l'avocate, et tout ce qui se joue en elle à partir du moment où elle va entrer dans son bureau un homme qu'elle croit reconnaître sans en être sûre, et tout ce que ce trouble transforme en elle et change même sans doute la manière dont elle va être l'avocate de cette mère infanticide.
Alors c'est vrai que quand il arrive, elle a tout fait pour faire bonne impression auprès de tout le monde, auprès de ses parents avant tout, d'avoir, écrivez-vous, une version séduisante de son existence. Elle est avocate, elle a répondu du coup au désir de ses parents, une espèce d'ascension sociale, et ce qui les ravit. Elle, qui n'était pas belle aux yeux de ses parents, la seule chose qu'elle avait de beau aux yeux de son père était ses cheveux, qu'elle a donc coupé très court, mais elle donne le change. Elle n'a pas une belle voiture, donc elle se gare très loin de chez eux quand elle va les rejoindre le dimanche pour déjeuner ou pour dîner. Tout dans sa vie n'est fait que de mensonges, de faux-semblants, et effectivement d'habiller la réalité, et finalement peut-être la réalité de quelqu'un qui essaie de paraître, de faire plaisir à des parents qu'elle aime. Ça, c'est le postulat. Ce monsieur principal va lui faire se rappeler un jour de ses 10 ans où elle accompagne sa mère, femme de ménage, dans une maison bourgeoise, où elle va, elle, se retrouver dans la chambre d'un garçon de 14 ans qui s'appelait, à son souvenir, principal. Et ce garçon aurait changé sa vie, plutôt en bien, parce que c'est plutôt un bon souvenir. Voilà le postulat de départ. Et voilà que son arrivée nous fait dire que peut-être que tout ne s'est pas forcément bien passé, ou en tout cas, elle va remonter le fil de sa vie et tout casser, les principes et les faux-semblants. Je peux le résumer comme ça, ça
suffit. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait été dans le mensonge. Elle est dans une vie qui lui convient parfaitement, et il y a peut-être des faux semblants, mais pas forcément des mensonges, parce qu'elle est sûre, elle, de ce qu'elle avait, de ce qu'elle a vécu. Enfin, en tout cas, elle n'est pas dans une hypocrisie. Elle est parfaitement satisfaite de l'existence qu'elle mène, et elle est sûre de sa moralité, de sa droiture. Elle est sûre aussi qu'elle n'a été victime de rien de préjudiciable, en tout cas. Donc elle n'est pas dans les mensonges, elle est dans une vie qu'elle s'est construite, et si il y a quelques faux-semblants, ça ne va pas jusqu'au mensonge, je pense. Elle est parfaitement bien dans une vie qu'elle s'est construite, avec toutes ses forces. Et cet homme qui entre dans son bureau, soudain fait s'effriter les murs qu'elle s'est construit, mais les murs n'étaient pas des murs de mensonges, c'était des murs de vérité par rapport à la vie qu'elle voulait avoir, en fait.
Ce que votre livre, au fil des pages, met en avant, c'est aussi la difficile communication entre des parents et des enfants, ou entre des enfants et des parents aussi, ou entre un homme et une femme, dans un couple aussi. Ça, c'est très souvent lu chez vous aussi, les silences, les non-dits, le désir de plaire ou de ne pas déplaire dans tous les sens. Et ça, c'est travailler à travers Maître Suzanne, mais c'est aussi travailler à travers cette femme, Marline Principeau. Et se pose aussi la question de la place des femmes. Alors ça, c'est pas la première fois non plus. Et ce livre est ponctué aussi des rencontres que fait Maître Suzanne avec Marline Principeau à la prison, où Marline Principeau se raconte, ou raconte ce qu'elle a fait. Et j'ai pensé à un moment donné à Virginia Woolf, où Marline Principeau dit à un moment donné, en faisant ce que j'ai fait, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu tout, mais aujourd'hui en prison, j'ai trouvé ma place à moi, j'ai trouvé mon coin à moi, mon petit bout de cellule à moi, et j'ai pensé un peu à cette chambre à soi, à cet endroit à soi, et non plus être la bonne femme, la bonne mère de famille qui s'occupait vraiment très bien de ses enfants, et de se retrouver soi-même. Est-ce que je me trompe en voyant et en posant cette question de la place des femmes à travers elle ?
Non, du tout, c'est très juste, oui, dans sa prison, cette mère infanticide, donc cette mère qui n'en est plus une et qui est la mère la plus atroce qu'on puisse imaginer, dans sa prison, elle se trouve en effet non pas forcément une chambre à elle, parce que ce serait trop dire, mais en tout cas un coin à elle physiquement dans sa cellule, et aussi un coin à elle mentalement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus à avoir affaire qu'avec elle-même, mais c'est au prix de quelque chose qui n'est pas recevable, et puis ne plus avoir affaire qu'avec soi-même quand on a tué ses enfants, c'est une sorte de leurre aussi, parce que leurs petits fantômes sont toujours là, donc elle n'est pas seule avec elle-même, mais elle est seule et délivrée d'avoir à prendre soin de jeunes enfants, d'avoir à s'inquiéter de leur avenir. Et c'est sûr que la meilleure façon de ne plus avoir à s'inquiéter de l'avenir de vos enfants, c'est de les tuer, dans un sens. Donc c'est ce qu'elle fait, mais ce n'est pas pour autant que cela la rendra libre, en fait, parce que leur petit fantôme demande réclamation, demande justice. Enfin, c'est pas si simple.
Et vous nous remuez avec cette histoire-là et avec ces histoires-là, et cette question de liberté, cette question de femme qui dit finalement aujourd'hui j'ai mon espace, un petit espace comme ça, tout à moi. Elle peut lire ce qu'elle veut, elle préfère sa cellule et mon petit lit bien à moi, dit-elle. J'ai pas envie de dire qu'on la comprend, parce qu'effectivement il y a ces fantômes, comme vous dites, qui sont là. Mais c'est sans morale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement non plus. La morale n'a pas sa place, je crois, dans ce que vous faites. Tout est là, on n'excuse personne. Et on se retrouve, nous, lecteurs, avec tout ça, finalement. Et on lit des faits, et on lit aussi, finalement, peut-être que c'est ce que vous travaillez en littérature, c'est d'aller chercher au plus profond, finalement, Parce que c'est pas l'acte en soi qui est intéressant, qui vous intéresse, je crois. C'est finalement comment on en vient. Et c'est l'avant, la fameuse première phrase dont on parlait tout à l'heure, où il y a l'histoire d'avant, c'est finalement l'origine des choses. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une femme, pour gagner sa liberté et se sauver de la condition dans laquelle elle s'est installée ou son mari l'a installée, fait ce choix-là? Je crois que ce qui vous intéresse, vous, c'est l'avant-acte et ce qui se passe peut-être à l'intérieur. Est-ce que c'est ça que vous creusez de livre en livre, Marie-Anne Diaye?
Déjà, oui, en effet, je tâche de n'avoir aucune espèce de point de vue moral sur mes personnages, de ne les juger en rien, même ceux qui sont les plus antipathiques. J'essaye de donner à tous mes personnages leur chance dans le livre, parce que c'est facile... comme auteur de démolir un personnage, de le rendre atroce, etc. Et cela me semble plus intéressant que chaque personnage, puisqu'on décide de le faire vivre, puisqu'on décide qu'il existe, de faire en sorte qu'il ait sa chance dans l'histoire, enfin, qu'il ne soit pas jugé d'emblée par le lecteur, parce que finalement, si on crée des personnages qui sont immédiatement des méchants, quel intérêt ça a? Enfin, on peut pour ça, on a d'autres voies de représentation. Il y a toutes sortes de films, etc., qui nous donnent ce plaisir-là de détester les méchants. Et ce qui me plaît en littérature, c'est qu'il y ait cette ambiguïté. C'est-à-dire que les personnages qu'on n'aime pas puissent quand même nous faire penser qu'on aurait pu être un petit peu eux. Enfin, voilà, l'ambivalence comme ça des sentiments. Mais je ne me rappelle plus. Votre question, en fait.
Sur la question de la morale, effectivement, et sur nous-mêmes, lecteurs, qui sommes face à cette ambiguïté que vous dites. D'ailleurs, l'ambiguïté aussi de qui est victime. Et dans votre livre, tout le monde l'est un petit peu, et tout le monde est un petit peu coupable aussi. Là aussi, on navigue entre les deux, il n'y a pas le bien et le mal. Et la question de la victime et du coupable dans cette histoire est bien compliqué aussi.
Mais les victimes évidemment sont bien évidemment les enfants tués, mais la criminelle et leur mère qui d'ailleurs le revendique absolument. Elle ne cherche absolument pas à s'absoudre de cette faute impardonnable, en fait, d'avoir tué ses enfants. Mais les autres personnages, oui, sont plus ambivalents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Maître Suzanne, c'est un personnage éminemment, je pense, bon au sens où c'est quelqu'un qui tâche de faire au mieux, qui tâche d'aider, qui tâche d'être une personne parfaite et à laquelle on ne pourrait jamais rien reprocher. Mais c'est pas facile de demeurer longtemps quelqu'un de parfait. Enfin, c'est pas facile d'être une femme exemplaire, d'être une femme à laquelle on ne pourra jamais rien reprocher.
Mais c'est ce qui rapproche Maître Suzanne de Marlene Principeau, ouais, qui a tenté, elle aussi, d'être une mère parfaite, qui allait chercher ses enfants à midi, leur préparer à manger juste comme il faut pour qu'ils soient en bonne santé, qui s'est oubliée au point, dit-elle, de grossir et de s'en vouloir, de finalement s'inquiéter de son poids, etc., qui a tenté d'être une femme parfaite. Et on voit qu'à un moment donné, ça craque. Et là aussi, chez Maître Suzanne, la femme parfaite qu'elle essayait d'être, ça craque aussi. Et c'est aussi une des questions que vous posez. Cette perfection, ça n'existe pas d'ailleurs.
Oui, oui, ces deux femmes, à leur manière, ont tâché d'être des personnes exemplaires, des femmes à propos desquelles on ne pourrait jamais médire, enfin, de remarquables en tout, mais remarquables dans un sens neutre aussi, pas remarquables au sens original, mais remarquables au sens parfaitement dévouées, bonnes citoyennes, bonne employeuse pour Maître Suzanne, puisqu'elle emploie une femme de ménage. Et cet effort pour être exemplaire, à un moment, les submerge. Oui, elles ne peuvent plus arriver à faire ce travail d'être des femmes parfaites. Et ça craque, ou ça craque elle. Enfin, pour Maître Suzanne, ça ne craque pas, ça craque elle. Ça se fissure, mais c'est léger.
C'est léger, puis elle est entourée aussi. Elle n'est pas seule, Maître Suzanne. Effectivement, elle embauche une jeune femme, Sharon, par militantisme. Hein. Elle prend une femme de ménage juste par militantisme, et pas parce qu'elle en a besoin. Mais cette Sharon s'occupe de sa maison, s'occupe de lui faire à manger. La nourriture est encore une fois importante chez vous. Il y a la place pour la nourriture qui permet à des enfants de bien grandir, ou à une femme de découvrir des saveurs, des odeurs d'ailleurs. Ça rappelle forcément aussi votre roman Chef, roman d'une... je ne trouve plus, mais c'est la chef roman d'une cuisinière, merci beaucoup. Et d'où ma question sur la maison, parce que je vous ai présenté en disant j'aurais pu aussi parler de la place des intérieurs, des maisons, de l'importance des maisons. Ça fait plusieurs livres où on observe les intérieurs, où les femmes décrivent des choses, les objets, nettoient des cuvettes de toilette avant que l'homme rentre à la maison, et tout ça est décrit, où on décrit des lits, des cuisines, où la maison où on revient, la maison de l'enfance, la maison des souvenirs aussi, une maison bourgeoise, ou la maison des parents. Est-ce que vous avez conscience que les maisons, les intérieurs sont très importants dans vos livres, ou c'est moi qui ai lu une importance dans ce qui n'en a pas ?
Oui, oui, vous avez raison, les intérieurs sont très présents dans mes livres, mais ils sont présents en ce qu'ils reflètent l'intérieur des personnages. Ils ne sont pas présents comme des personnages. Ce sont quand même des décors, enfin des sortes d'arrière-pensée, des personnages, enfin de fond, des personnages. Je n'ai pas l'impression que les intérieurs ou les paysages que je décris soient indépendants de ce que j'essaye de faire comprendre des personnages. Je ne suis pas, j'aimerais bien, mais je ne suis pas une grande descriptrice des paysages, enfin, des lieux. ils ne sont là que pour mettre en scène les personnages.
Mettre en mouvement et en situation, dans leurs conditions aussi. Oui. Les maisons du souvenir, quand même, quand on revient ou chez le père, ou quand on se souvient de la maison bourgeoise, là, ça fait partie aussi des moments de vie. La mémoire est importante aussi. On se souvient ou on revient sur des lieux d'enfance. L'enfance est omniprésente dans plein de vos livres. L'enfance qui nous a construites ou déconstruites, l'enfance qui est abîmée, l'enfant dont on ne s'occupe pas, ou l'enfance qui s'affranchit des parents, ça c'est un de vos soucis depuis longtemps d'écrivaine, d'écrire sur l'enfance.
Oui, sur les enfants ou les animaux, mais vu comme les êtres les plus vulnérables qui soient. Et si les enfants sont présents dans mes livres, depuis quelques temps, c'était surtout le cas dans mes premiers livres, c'était vraiment, oui, la figure de ce qu'il y a de plus fragile en ce monde et ce sur quoi l'adulte tout puissant peut exercer son pouvoir de malédiction, mais comme sur les animaux d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est moins présent dans mes derniers livres, enfin l'enfance maltraitée par les adultes. J'ai l'impression que c'est voilà, que j'ai en quelque sorte épuisé cette question dans le cadre romanesque et que je ne saurais plus trop quoi en faire à présent.
Il y a la question des corps aussi, le souci d'un corps qui change, le cas de Marlene Principeau, qui parle de son corps. Son mari parle aussi du corps de sa femme comme étant très peu important finalement. Il fait l'amour à la mère de ses enfants, à cette femme qu'il aime, mais qu'importe que son corps soit gros, etc., etc. Ça veut dire qu'il ne la regarde plus. Il y a le corps de Madame Suzanne, grand, large, les cheveux coupés, qui prend de l'importance, qui ne plaît pas forcément au père. Il y a les corps des enfants qu'on a bien nourris. Il y a un regard comme ça sur les corps, dans vos livres aussi, ou les corps vieillissants aussi, dans d'autres livres. Les odeurs qu'émanent les corps aussi, ça c'est quelque chose que vous travaillez aussi depuis longtemps. Tout ce que le corps dégage, le regard qu'on peut poser, les corps, c'est aussi plein de sensations, c'est sensuel, c'est sexuel, c'est des corps qu'on désire ou qu'on refuse de désirer.
Oui, dans ce livre, donc, La vengeance m'appartient, Maître Suzanne a quand même décidé de s'affranchir de tout regard sur son corps, son père l'aimerait plus ceci ou moins cela, et elle a fait en sorte de travailler son corps pour que son père ne l'aime pas. Elle a travaillé son allure pour déplaire à son père en lui disant très implicitement, bien sûr, ben c'est comme ça, quoi. Je suis pas là pour te plaire, et plus généralement, je suis pas là pour plaire au type d'homme que tu représentes. Et elle s'est affranchie de cette image de jolie jeune fille que son père avait d'elle et dont il aurait aimé qu'elle qu'elle reste l'image à jamais. Et voilà, elle a choisi d'avoir non seulement le corps, mais la coiffure et le visage qu'elle a pour se soustraire à tout jamais au désir de plaire à son père, en effet.
Il y a les corps et les visages. J'imagine que vous ne mettez rien. Enfin, que vous ne faites rien au hasard, Marianne Diaz.
Ah, si,
si, il y a des choses qui sont du hasard.
Pas le hasard, mais quand on écrit, et c'est une bonne chose, je pense, on ne contrôle pas tout. Enfin, on est mu aussi par ce qu'on vit, parce qu'on a dans la tête, mais parce ce qui nous déborde, l'écriture, c'est pas quelque chose dont on maîtrise chaque enjeu, enfin chaque ligne, chaque mot n'est pas représentatif de quelque chose qu'on pourrait définir absolument. Bien sûr, ce qu'on écrit nous déborde, nous dépasse, nous transforme, nous change, nous surprend, et c'est bien heureux. Ce serait bizarre quand on écrit de la fiction, quand on se relit, on est soi-même étonné par ce qu'on a pu écrire dans les essais. C'est sans doute tout différent, mais dans la fiction, c'est très important. Je pense qu'on soit toujours étonné par ce qu'on a pu écrire la veille, penser la veille. Enfin, c'est nécessaire.
Et c'est ça qui est beau au final. Lévinas arrive aussi à un moment du roman où Marilyn Principeau raconte la matinée où elle a tué ses enfants, et elle le raconte dans les détails. Et elle dit que passe à la radio, France Culture en l'occurrence, une émission, et elle entend parler de Lévinas qui dit la phrase, c'est le visage, alors je ne sais plus, mais le visage qui permet de, et trois petits points, mais c'est le visage qui permet de tuer, si je ne m'abuse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a surpris quand vous vous êtes relu? Est-ce que ça, c'est un moment où vous écoutiez aussi cette émission, ou parce que, alors je ne suis pas une spécialiste de Lévinas, loin de là, donc je suis allée chercher ce que peut-être vous essayez de me dire ou de nous dire par là, parce que finalement c'est à ce moment qu'elle passe à l'acte. Qu'est-ce que vous dites par là? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous surprend aussi, vous, l'auteur? Est-ce que vous êtes surprise par ce que dit finalement le personnage, ou il y a quelque chose dans cette question du visage et du rapport à l'autre, parce que c'est ça que dit Lévinas finalement, c'est aussi notre moi face à l'autre et cette possibilité de tuer l'autre ou soi-même.
Elle entend dans cette émission et elle croit comprendre que par ce que dit Lévinas, le visage de l'autre est sacré. On ne peut pas attenter au visage de l'autre. Et cependant, quand elle tue ses enfants, elle n'attend pas précisément à leur visage puisqu'elle les noie, mais malgré tout, à un moment, elle voit leur visage qui se perd, leur visage qui se noie, et paradoxalement, elle entend cette émission et les propos de Lévinas, et cela lui donne plus de force encore pour commettre cet acte abominable.
Comme une autorisation.
Oui, mais parfaitement contradictoire, en fait. Sauf qu'en les noyant, elle n'a pas l'impression de faire du mal à leur visage, enfin, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de coup, etc. Mais il n'en reste pas moins que le meurtre par noyade est presque aussi violent, en fait. Ça ne change rien.
Vous êtes en 37 ans, Marie-Anne Diaye, emplie de personnages. Et nous aussi, quand on vous lit, on a croisé nombre de personnages différents, des femmes, des vieils hommes, des enfants, au fil des lectures. Une grande chef dont le commis raconte l'histoire. Est-ce que vous vous emplissez de ces personnages aussi? Est-ce qu'ils restent en vous? Est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Ou ça ne se passe pas comme ça avec vous? On entend parfois certains écrivains qui vivent avec tous ces personnages qui sont nés de leur imaginaire, ou parfois d'autres du réel, de la vraie vie, si je pouvais dire comme ça. Est-ce qu'ils sont là, tous encore? Est-ce qu'ils vivent encore après les livres? En vous?
Non, pas du tout. Quand le livre est achevé, les personnages me quittent très vite. Enfin, je ne vis pas avec mes personnages. Ça reste des personnages. Ce ne sont pas de vrais humains, de fait. Ce sont des personnages, mais je ne suis pas du tout hantée par eux. Je les oublie très vite et je pense aussitôt au suivant. Enfin, je ne suis pas du tout occupée ou récipiente d'une espèce de mémoire de mes personnages, du tout, non.
Est-ce que vous êtes comme la chef du roman d'une cuisinière, puisque c'est le commis qui racontait son histoire et elle était plutôt silencieuse comme femme, on vous oblige dans le cadre de rencontres comme ça à parler de votre travail, à parler de vous. Est-ce que c'est une violence qui vous est demandée, ou est-ce que vous êtes plutôt silencieuse normalement, et c'est ce qui permet de nourrir aussi les histoires et d'être dans votre bulle d'une certaine manière, ou au contraire vous êtes très éloignée d'un profil comme la chef?
Non, ce n'est pas du tout une violence, parce que déjà je ne souhaitais pas ces rencontres, je ne les ferais pas. Enfin, il n'y a aucune obligation. Donc, si je suis devant vous, c'est parce que je l'ai souhaité, puis que ça me fait plaisir. Donc, il n'y a pas la moindre contrainte de ce fait-là. Mais en effet, parfois, j'ai l'impression, mais ça m'intéresse aussi, mais que quand on me pose des questions sur mes personnages ou le sens de mes livres, j'ai l'impression de devoir dire des choses auxquelles je n'avais pas pensé, et ça c'est banal, mais surtout auxquelles il aurait été bien que je ne pense pas avant d'écrire. Enfin, la manière de gloser sur ce qu'on fait, de commenter son travail, c'est intéressant parce que ça me fait prendre conscience de choses auxquelles je n'avais jamais pensé, mais ces choses auxquelles je n'avais jamais pensé n'auraient pas été bien qu'elle soit là avant l'écriture.
Je vais vous donner la parole s'il y a une ou deux questions, mais je voudrais revenir sur l'enfance et la vôtre aussi, puisque je le disais, vous avez commencé très tôt à écrire, puisque le premier livre a été publié alors que vous aviez 17 ans. Est-ce que l'écriture est une forme de liberté ? Est-ce que c'est une liberté que vous avez trouvée en écrivant ? Est-ce que c'était une façon de trouver votre place aussi, où ça ne s'est pas fait de cette manière-là, où vous avez simplement écrit parce que vous aimiez lire?
Je crois que c'est les deux. J'ai écrit et tout simplement parce que j'aimais lire et je suis devenue écrivaine parce que j'aurais difficilement pu faire autre chose. Enfin, quand on crée et que les choses se passent bien, le fait que ça se passe bien, ça masque aussi le fait qu'on était en quelque sorte asocial. Enfin, quand ça se passe mal, ben, vous êtes juste quelqu'un qui n'a pas réussi, mais quand ça se passe bien, ça ne masque pas forcément le fait que vous pouviez pas faire autrement. Enfin, j'aurais pas pu être, je pense, autre chose que l'écrivaine que je suis, mais ça aurait pu mal se passer. J'aurais juste été quelqu'un en marge. Hein. Voilà, le fait d'être une écrivaine reconnue obitère la marginalité, mais cette marginalité reste en fait en coulisses, enfin en quelque sorte. Mais quand on écrit depuis toujours, c'est quand même quelque chose d'anormal. Mais c'est pas grave d'être anormal, mais de fait, c'est pas normal.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Peut-être pendant que le... N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et des questions ou des remarques pendant que le micro va circuler. Levez la main. Si on a, du coup, je vous pose une dernière question avant de donner la parole au monsieur. Vous parliez justement d'anormalité. Il y a quelques romans où l'anormalité est présente, le fantastique avec des larmes de sang, ou l'étrangeté, ou la place au rêve, parce que des fois on se déplace, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est du rêve, et notamment je pense au dernier, il y a un voyage, on se pose même la question si le voyage est vraiment fait. Cette anormalité a sa place dans vos livres aussi. C'est important pour vous de toujours injecter ou de l'étrangeté ou de l'anormalité ou du rêve, si je peux mettre tout dans le même sac?
Je ne dirais pas que c'est important parce que c'est naturel. Je ne m'en rends pas plus compte que quand je rêve ou que je pense. Ça fait partie vraiment de ma manière de voir les choses, de considérer le monde. Enfin, c'est pas du tout le fruit d'une décision, c'est la manière dont mon esprit travaille en fait.
Avec beaucoup de choses, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on ne maîtrise pas, et c'est ce qui fait la force des choses, et c'est qu'un écrivain est aussi quelqu'un qui laisse peut-être tout ouvert pour tout laisser entrer du monde extérieur. Monsieur.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Avant de poser ma question à Marine Diaz, je voulais, Sarah Polati, c'est ça, vous dire merci pour cet entretien très, très intelligemment mené. Bravo. Je voulais, Marine Diaz, là où je suis, je vois l'écran, vous ne voyez pas. Et sur l'écran, c'est marqué « Réalisme et étrangeté, Marine Diaz ». Marine Diaz, réalisme et étrangeté. La question que je me posais, est-ce que vous pensez que réalisme et étrangeté définissent votre œuvre?
C'est toujours difficile pour moi d'avoir cette distance de critique ou de personne qui gloserait sur ce que je fais et de dire ce qui définit mon travail, c'est ça. Alors oui, je peux me retrouver là-dedans, mais j'ai l'impression que ce n'est pas mon rôle de dire de définir ce que je fais. Alors oui, bien sûr, étrangeté, réalisme, j'entends bien, hein. Et ça me va très bien, mais j'ai l'impression que c'est pas ma place, c'est pas là où doit être un auteur de dire mon travail c'est ça, c'est le réalisme. Mais l'étrangeté, etc. Je l'admets, mais ça ne me concerne pas vraiment. Et je n'ai pas trop envie non plus d'en apprendre trop. Enfin, de savoir trop ce que l'on peut dire. À propos de mon travail, il y a cette phrase que j'aimais bien dans cette série « Le bureau des légendes ». « Est-ce qu'on a à en connaître disent les espions ?» Et j'aime bien l'idée que je n'ai pas à en connaître trop de ce que je fais. Enfin, ça ne me concerne pas vraiment, en fait. Merci à vous.
Il n'y a plus de questions. Alors moi, je vais finir. Et j'ai bien noté qu'effectivement, et vous avez raison de tenter de ne pas trop en savoir, ou en tout cas, comment vous faites les choses. En revanche, vous remuer le lecteur. C'est Éric Emmanuel Schmitt dans la préface de la nouvelle édition des Trois femmes puissantes à l'occasion de l'anniversaire de la naissance d'Edmond Goncourt l'année dernière, où ils ont ressorti par le biais du magazine Figaro quelques Goncourt, et vous avez été un très beau Goncourt, et ça a aussi changé, je crois, la notoriété que vous avez. Je ne sais pas si ça a changé votre façon de travailler, mais en fait non, j'ai la réponse, je suis convaincue que non. En revanche, lui disait que vous changiez le lecteur, et c'est vrai que peut-être que vous ne changez pas, mais vous nous faites nous poser beaucoup de questions sur notre rapport à l'autre, sur nos conditions, sur des rapports que nous avons, sur l'enfance, même si vous dites que l'enfance n'a pas lieu, je pense qu'elle est omniprésente dans le dernier, mais ça c'est la lectrice que je suis, et chacun lit aussi son propre livre. Donc merci pour le travail que vous faites. On aurait pu parler ensemble de Nathalie Sarraute, qui je crois est une auteure importante pour vous. Peut-être une dernière question, si ce n'est pas indiscret, que lisez-vous là? Quel livre est sur votre table de chevet ou dans votre sac? Parce qu'on aime bien savoir ce que lisent les écrivains.
Alors, dans mon sac, il y a une biographie de Beethoven par Edmond Buchet qui date des années 60. Et il y a La chambre à brouillard d'Éric Chevillard. Et il y a des nouvelles de Patricia Highsmith que je lis depuis l'adolescence et puis que je relis là. Mais voilà. Voilà ce qu'il y a en ce moment.
Un mélange incroyable. Le livre qui a déterminé tout chez vous, est-ce qu'il y en aurait un seul dans l'enfance ou plus tard? C'est compliqué.
Ah, oui. Non, un seul, c'est trop difficile. Parce que ce ne serait pas juste, en fait. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et
pourtant, le monde est injuste. Ouais.
Oui, non, mais ce plein-là ne pourrait pas être résumable à un seul. Il y a eu Proust, Dostoïevski, il y a eu les sœurs Bronté, il y a eu Joyce Carol Oates, il y a eu Russell Banks, Javier Marías, d'ailleurs, ces deux écrivains qui sont morts récemment, et ça m'a beaucoup peinée. Qu'ils soient plus là, je ne les connaissais pas du tout, mais ça m'a fait de la peine qu'ils soient plus dans l'univers, dans le monde vivant. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup peiné. Mais non, le l'écrivain unique qui serait la somme de tous ces écrivains, donc il n'a pas de nom, en fait. Mais...
Merci infiniment, Marianne Diaye.
Merci à vous.
Et je conseille tous les livres, finalement, hein, puisque voilà, ils sont tous disponibles. Et je voulais juste saluer le travail de Sylvia et Sandra d'Agiles qui ont interprété cette rencontre en langue des signes. Merci à vous.
Merci beaucoup.